France Inter.
Journal Laurence Thomas, bonjour.
Bonjour à tous. La mort de Naël, c'était il y a presque un an. Les acteurs du drame réunis ce matin à Nanterre pour une reconstitution. Les européennes, c'est dans 5 semaines dans ce journal. Le parti animaliste et puis à la Foire de Paris, étape de la caravane de la rénovation énergétique où tout savoir sur les travaux pour en finir avec les passoires thermiques.
Et à 7h50, une invitée exceptionnelle, plasticienne, l'une des plus grandes artistes contemporaines françaises, Annette Messager, est avec nous pour parler d'une exposition parisienne et de son œuvre en général qui fait le tour du monde.
France Inter.
Une reconstitution très attendue ce matin à Nanterre, Laurence.
Près d'un an après la mort du jeune Naël, la justice réunit les principaux protagonistes du dossier sur les lieux du drame, là où le 27 juin 2023, l'adolescent de 17 ans était abattu par un policier lors d'un contrôle routier. Le drame avait entraîné des émeutes d'une intensité exceptionnelle. Pour la première fois, Charlotte Piret, toutes les parties seront confrontées à leur déposition.
Un important dispositif policier est prévu pour empêcher tout accès et cacher la scène des regards, car la reconstitution est un acte d'enquête couvert par le secret de l'instruction, mais aussi parce que pendant plusieurs heures seront à nouveau réunis les deux policiers impliqués, le tireur, âgé de 38 ans au moment des faits, remis en liberté après 5 mois de détention provisoire, son collègue qui se tenait à ses côtés, mais aussi le passager de la voiture conduite par le jeune Naël, ainsi que les témoins de la scène, dont les versions sont parfois contestées par la défense. Avocats des deux bords seront donc attentifs aux déclarations de chacun. S'ajouteront également les analyses des experts, en balistique notamment, sur l'angle de tir par exemple, ou plus largement, tout élément qui ne figure pas sur la vidéo diffusée sur les réseaux sociaux et susceptible d'éclairer les juges. Le tout sous grande surveillance donc, car les journées d'émeute qui avaient suivi la mort de Naël sont encore dans les mémoires et les forces de l'ordre craignent un contexte tendu pour cette reconstitution, au point que les différents participants ont été invités par les juges d'instruction à porter des gilets pare-balles.
Charlotte Piret, je m'impliquerai dans les européennes. Alors qu'il va passer le cap des 7 ans à l'Élysée, le président de la République dresse dans un entretien à la Tribune dimanche et à la Provence un premier bilan où il affiche sa volonté de réformer le pays jusqu'à la fin de son mandat et de peser en Europe. Car les européennes, c'est dans 5 semaines. 8 listes sont régulièrement évoquées. Il y en a pourtant 14 autres, mais qui ne dépassent pas les 2% d'intention de vote dans les sondages. Alors coup de projecteur ce matin sur le parti animaliste. La tête de liste, Hélène Thuy, avocate notamment d'L214, déjà candidate en 2019, rempile pour le scrutin de 2024. Les sondages prédisent entre 1 et 2,5% des votes. Il y a 5 ans, le parti animaliste avait tout de même recueilli presque 500 000 suffrages, soit près de 2,2% des voix, presque autant que la liste du parti communiste. Le parti animaliste défend les droits des animaux, notamment l'abolition de la corrida et l'amélioration des conditions d'élevage. Et ce parti estime que la question animale à voix à tous les chapitres. Claire Flochel.
Dans sa dernière campagne pour les européennes, le parti animaliste avait attiré l'attention en choisissant de mettre en avant des photos de chiens, de chats et même de lapins sur ses affiches électorales officielles. On pouvait y lire « Les animaux comptent, votre voix aussi » ou encore « Parti animaliste, un vote qui a du chien ». Cette année, les affiches n'ont pas encore été révélées. On les garde encore secrètes pour le moment, explique-t-on dans l'entourage d'Hélène Thuy, la tête de liste qui espère obtenir le seuil nécessaire à l'obtention de députés européens cette année.
En 2019, nous avions fait 2,17%. Sans aucune notoriété. Depuis, c'est un parti qui a grandi et clairement, nous visons les 5%.
Le parti animaliste défend évidemment les animaux, mais pas seulement, explique Hélène Thuy.
Ce que l'on porte, c'est un autre modèle de société et l'on montre que notamment, si l'on s'attache au modèle agricole, il est évidemment extrêmement préjudiciable pour les animaux. Il est aussi très préjudiciable aux humains parce que nous avons des risques de crise sanitaire due au mode d'élevage, mais aussi un gaspillage de ressources qui est considérable. Et donc nous, notre vision, c'est et ne pas dissocier les humains, les animaux, l'environnement, mais d'apporter une réponse globale.
Le parti animaliste se revendique transpartisan, et il est vrai que la cause animale dépasse les clivages politiques. Plusieurs élus en font désormais leur cheval de bataille, comme Émeric Caron, député à part entière de la France Insoumise, ou Béatrice Rouleau, députée du Rassemblement National.
Claire Flochel, et puisqu'on évoque les animaux, journée porte ouverte ce week-end dans les 64 refuges et maisons SPA de France. Le président chinois entame ce dimanche une tournée en Europe avec une première étape en France. France pour célébrer les 60 ans de relations diplomatiques entre les deux pays. La visite officielle démarrera demain. Emmanuel Macron va tenter d'inciter son homologue chinois à réduire les déséquilibres commerciaux avec l'Europe et de le convaincre d'user de toute son influence sur la Russie à propos de la guerre en Ukraine.
Et voilà une bonne nouvelle, mais qui ne signe pas le sauvetage définitif de l'entreprise Atos.
Le géant informatique français, leader européen de la cybersécurité, accuse pas loin de 5 milliards d'euros de dettes. Le groupe a reçu plusieurs offres de reprise cette fin de semaine, mais aussi, beaucoup moins attendu, de l'argent frais. Les créanciers d'Atos proposent, à la surprise générale, de refinancer une grande partie du groupe. Camille Marigot.
Les créanciers d'Atos, obligataires d'un côté, banques de l'autre, se disent prêts d'abord à apporter de l'argent frais, alors que le groupe a indiqué en début de semaine avoir besoin d'un peu plus d'un milliard d'euros pour tenir jusqu'en 2025. Les créanciers sont également prêts à faire disparaître une partie de la dette, autour de 2,5 milliards d'euros, selon une de nos sources, pas autant que les 3,2 milliards d'euros de dette en moins demandés par Atos. Quoi qu'il en soit, cette alliance entre créanciers est qualifiée de très rare par plusieurs acteurs du dossier, positif par les syndicats qui restent prudents et attendent de connaître les offres de reprise soumises à Atos et surtout le périmètre des activités qui sera gardé. L'État est de son côté prêt à racheter les opérations stratégiques d'Atos. Il s'agit de supercalculateurs utilisés pour la dissuasion nucléaire ou encore de produits de cybersécurité.
À présent, ce casse-tête des propriétaires de logements mal isolés. Froid et humidité en hiver, chaleur suffocante en été. Et ils sont tentés, souvent, de lancer des travaux pour rénover leur habitat. Encore faut-il s'y retrouver entre les aides et les artisans labellisé. Depuis le mois d'avril, une caravane de la rénovation énergétique circule en France. Elle est gérée par MaPrimeRénov et elle fait étape à la Foire de Paris, Porte de Versailles jusqu'au 12 mai. Thomas Bonnet.
Ils sont une dizaine à déambuler entre les différents types d'isolants. Parmi eux, Cynthia, elle se pose des questions sur la rénovation de la maison qu'elle vient d'acheter.
Comment faire pour faire les démarches, pour bénéficier des aides lorsqu'on fait des travaux pour une rénovation énergétique et puis comment s'y prendre ?
Cynthia a eu un peu froid cet hiver, mais elle ne cherche pas à améliorer que son confort.
L'énergie coûte cher et puis moins on consomme d'énergie, mieux c'est pour la planète. Donc voilà, si chacun peut faire un geste, c'est très bien.
En face d'elle, Hippolyte Carré. C'est l'un des 20 conseillers mobilisés sur le stand.
Être présent aujourd'hui, ça permet de reposer les choses avec eux et de leur permettre d'y voir clair entre les différentes solutions qui s'offrent à eux.
Vous avez quoi actuellement comme mode de chauffage ?
Chauffage central au gaz.
Cibler les bonnes aides et les bons procédés, c'est l'objectif de la caravane de la rénovation énergétique.
Il faut vraiment faire une rénovation sur mesure.
Martin Lagan, porte-parole de France Rénov.
En fonction de là où on habite, en fonction du type de bâti que l'on a, etc. Donc ils ont conscience qu'il faut rénover. Là, ils viennent chercher des réponses opérationnelles sur comment je fais, quelles aides je mobilise, quels travaux je dois faire.
Plus de 300 personnes sont déjà venues poser leurs questions depuis le lancement. La caravane reprendra son tour de France début juin à Quimperlé.
En tout cas, jusqu'au 12 mai à la Foire de Paris, dans le pavillon 3, cette caravane de la rénovation énergétique apporte tous les conseils et les infos pratiques nécessaires. Et maintenant, tous à l'opéra. Comment construit-on un décor ? Comment fabrique-t-on les costumes des chanteurs, des chanteuses ? Comment répète l'orchestre ? Eh bien, autant de réponses qu'on peut trouver grâce à l'opération L'événement, tous à l'opéra. L'événement se termine aujourd'hui. Illustration à Rouen avec le reportage de Marie Martirossian de France Bleu Normandie Rouen.
On ne peut être qu'impressionné en entrant dans la grande salle de l'opéra de Rouen avec son millier de sièges rouges et cette large scène. C'en est presque intimidant pour Océane.
L'ambiance, l'atmosphère qu'il y a dans la salle, c'est comme si on était en plein dedans en fait, comme si on vivait le moment, c'est particulier.
En montant sur la scène, on découvre toutes les coulisses, les poulies où les décors sont accrochés, le sous-sol qui permet de faire remonter certains gros objets. Avec en plus les chanteurs, les musiciens, tout doit être parfaitement organisé, a retenu Coralie.
Ce qui m'a impressionné, c'est le peu de temps qu'ils ont pour répéter tous ensemble. Pratiquement au jour J, hop, ils se retrouvent pour répéter. Incroyable.
Entre les techniciens lumière, le maquillage, l'accueil du public, ce sont parfois jusqu'à 300 personnes qui peuvent travailler sur un seul opéra, avec des métiers qu'on ne connaît pas toujours. Pam a découvert celui de costumière qui a un rôle très important.
Par exemple, faire un costume assez épais pour que chaque comédien puisse entrer dedans et le personnaliser en fonction de la morphologie de chaque comédien.
Tout le monde a beaucoup de questions et ça fait bien plaisir à Alexandre Casier Le Vilain, le guide responsable de l'équipe d'accueil de l'opéra.
L'idée, c'est aussi de faire montrer l'envers du décor. Donc, on démystifie un petit peu le spectacle. C'est toujours agréable de faire partager un peu les coulisses et les secrets de fabrication de nos spectacles.
Des spectacles dont les places peuvent aller de 10 à plus de 60 euros.
Tout ça à l'Opéra, une opération porte ouverte qui se termine aujourd'hui.
C'était le journal de Laurence Thomas. À suivre, les regrets d'Emmanuel Macron dans l'édito politique et l'entraîneur du PSG dans la chronique. On va en reparler.